Ce que j'ai à cœur de partager avec vous, ce quoi je veux parler ce matin, c'est la merveilleuse vie de l'esprit. Et je l'ai intitulé comme ça, la merveilleuse vie de l'esprit, pour nous exhorter ensemble à marcher selon l'esprit. C'est une grande exhortation de la parole de Dieu que nous avons dans les Écritures, et pour cause, parce que nous sommes des hommes. Et parfois, nous avons tellement ça en tête que nous sommes des hommes, nous insistons parfois tellement sur notre faiblesse d'homme, que Dieu va nous comprendre, qu'on peut oublier une autre réalité de nous, mais qui est tellement vraie. Voilà, c'est que nous sommes des saints. Voilà. Et justement, ce qui s'est passé, c'est justement cette victoire du Seigneur qui s'est acquise à la croix, c'est précisément pour faire de nous ces saints qui sont appelés à marcher d'une certaine manière. Alors, dans la vie chrétienne, il peut y avoir des échecs, il ne faut pas se mentir, hein, il ne faut pas se voiler la face. Il peut y avoir des échecs, mais mon propos ce matin, c'est de parler de cette merveilleuse vie de l'esprit et de, justement, la réalité qui va avec, que nous pouvons vivre si nous voulons simplement écouter la voix du Seigneur et le laisser faire accomplir ses desseins et sa gloire dans nos vies. Alors, on va prier avant d'aller plus loin, et puis nous allons préparer ce texte en Galates. C'est avec ce texte que nous allons commencer, en Galates au chapitre 5, et je vais lire les versets 16 à 26. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta présence. Oh, merci encore pour ce que tu as fait, ce que tu as fait de nous, ce que tu as fait pour nous, dans ton amour pour nous. Et c'est en vertu de toutes ces choses que nous te célébrons avec ces chants ce matin, avec ses lectures, avec ses prières. Merci Seigneur pour ton salut. Merci pour ton dessein, Seigneur, que tu as formé sur nous dès avant la fondation du monde. Merci pour ta victoire, parce que même ces choses qui semblent être contredites, que nous-mêmes parfois nous avons du mal à réaliser qu'elles sont telles qu'elles sont, ces choses vont apparaître un jour avec évidence, parce que comme il est dit, tu vas les manifester. Tu vas les rendre visibles, palpables pour tous. Et nous attendons ce jour, nous qui luttons, nous qui souffrons, parfois avec nous-mêmes, Seigneur, avec toute l'opposition qu'il y a déjà en nous-mêmes. Eh bien, nous nous rappelons ce que tu as fait ce matin encore. Et nous voulons nous rappeler que tu as vaincu et que cette vie dont tu as parlé, que tu annonçais, Seigneur, elle est réalité aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont cru en toi. Et nous voulons avec toi apprendre à nous soumettre à ta voix pour que de plus en plus, dans l'Église, dans nos vies, cela apparaisse, Seigneur, la victoire que tu t'es acquise à la fois pour que nous soyons nés de nouveau et que nous marchions en nouveauté de vie. Parle à ton peuple, rends-nous sensibles à ta voix et que ton œuvre se fasse dans chacun de nos cœurs ce matin. À la gloire de ton nom, nous prions en Jésus-Christ. Amen. Galates. Chapitre 5, c'est un passage très connu par les chrétiens. Souvent, on s'arrête pour regarder justement la liste là des fruits de l'esprit. Je voudrais lire à partir du verset 16 donc, qui commence ainsi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà le texte pour ce matin, en nous rappelant justement ce que l'apôtre Paul est en train de faire avec ses croyants à qui il s'adresse. C'est des gens pour qui il était inquiet. Il avait même peur pour eux, en se demandant si véritablement, eux, ils avaient reçu Christ. Et il les considère et il leur parle comme à des enfants encore en Christ. Et il dit, il s'imagine même que pour eux, il y a encore une naissance qui est en train de se faire douloureusement là, qu'ils ne sont pas tout à fait, que ce n'est pas tout à fait fait et achevé. Il va même à penser en des termes, avec des images pareilles, et il les exhorte. Pourquoi? Mais parce que le problème, c'est qu'ils voulaient, après avoir reçu Christ et entendu Christ, ils voulaient retourner à la loi. Et l'apôtre Paul va prendre comme ultime argument avec eux, après avoir fait plusieurs démonstrations, en expliquant notamment pourquoi le rôle de la loi, pourquoi la loi est là, il va prendre comme ultime argument la réalité de la vie spirituelle. Et vous savez, c'est ça qui est mon propos pour nous ce matin. La vraie vie. Et il va terminer son argument avec ça pour un peu, en pointant à des choses qui existaient parmi eux qui voulaient retourner par la loi, et lui en tant que celui-même qui avait été sous la loi, qui savait justement que la loi n'avait pas vraiment été d'une aide pour cela, parce que la loi avait été donnée pour une raison, pour en préparation, mais pas pour elle-même accomplir cette réalité de la nouvelle vie, de la vraie vie dont le Seigneur lui-même avait parlé. Et il va prendre pour eux la réalité de ce qu'ils savaient qu'ils vivaient. Ces choses, quand il mentionne les fruits de la chair, ils savaient que c'est des réalités qui étaient parmi eux. Des choses qu'ils avaient besoin encore d'apprendre à délaisser, à abandonner. Et il va leur rappeler que ce n'est pas la loi qui va faire ces choses, mais que c'est la réalité de l'Esprit de Christ en nous qui nous amène à ces choses. Et c'est mon propos pour nous ce matin, ou l'exhortation de ce matin. Vous savez, il existe tellement de religions qui existent, où il y a des bonnes choses qu'on fait, mais où le cœur n'est pas là, l'essentiel n'est pas là. Et nous aussi, quand nous sommes en train d'annoncer l'Évangile, il faut que nous soyons préoccupés avec ça. Parce que, je le dis souvent, une des erreurs que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est de regarder quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qu'on voit même qui a une certaine piété, et puis on regarde ça et on décrète, c'est un frère. Vous savez, vous allez trouver dans le monde beaucoup de personnes qui vont vous impressionner par leur correction, par leur gentillesse, par leur bonté, générosité, et peut-être même par une certaine pureté de vie. Mais vous savez, ce n'est pas ça le cœur. Et c'est très important que nous puissions rappeler ça pour nous ce matin. La réalité, c'est l'esprit, la vie de l'esprit, la nouvelle vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup une parole des Écritures que je répète très souvent parmi nous au cours de la marne. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et je voudrais que nous regardions comment le Seigneur lui-même, que nous remarquons l'importance et la place de cette réalité de la nouvelle vie dont je suis en train de parler aux yeux du Seigneur lui-même. Et on va commencer avec l'annonce de Jean-Baptiste. Ce n'est pas dans les paroles du Seigneur, mais les Écritures inspirées par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. On va considérer un passage déjà dans les Écritures en Matthieu au chapitre 3. Et je voudrais qu'avec la petite démonstration que nous allons faire là, maintenant, avec plusieurs, en regardant plusieurs versets, c'est de voir la place de cette question de la vie de l'Esprit. Voilà, la question de cette nouvelle vie, de voir comment l'importance que le Seigneur lui a accordée et comment c'est mentionné dans les Écritures. Voilà comment je vais m'y prendre. En commençant avec Matthieu, au chapitre 3, voilà, c'est le verset 11, mais je vais lire un peu de contexte aussi avec, vous voyez, cette annonce de Jean-Baptiste. Voilà, Matthieu, chapitre 3. Je ne sais pas si ça dérangera que je me mette un petit peu, oui. J'ai un petit peu du mal avec la luminosité. Juste me mettre un peu comme ça, parce que voilà, je pense que voilà, ça va beaucoup mieux, merci. Voilà, j'avais un peu de mal pour lire. Je ne sais pas si c'est de la buée aussi, donc ça ne va pas. Merci beaucoup. Alors, c'est Jean-Baptiste qui parle au peuple et il dit entre autres ceci: produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Remarquez bien les propos de Jean. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de la merveilleuse vie de l'Esprit. Et nous regardons ici dans les Écritures comment cette réalité est déjà annoncée avec... On le ressent bien, la valeur et l'importance que ça a. Et vous savez, un peu plus loin, quand Jésus vient pour être baptisé par Jean, Jean ne veut pas. Et il dit, sachant que lui, ce qu'il attend, c'est ce baptême-là, qu'il annonce lui-même, qu'il n'a pas reçu ce baptême de l'Esprit, il refuse, il dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et lui, bien sûr, il endette, pas le baptême d'eau, mais le baptême qui sait que le Seigneur est le seul à pouvoir à donner, à administrer, et il refuse en ces termes. On va regarder en Jean au chapitre 1, on va regarder un parallèle là. Jean chapitre 1, on va lire les versets 32 à 34. Voilà, Jean chapitre 1, versets 32 à 34. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras descendre, l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et là encore un autre texte qui pointe sur cette réalité du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la vie de l'Esprit. Et Jean semble dire que, voilà, ce qui m'a été indiqué, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Je voulais juste voir ça avec vous. Et puis les paroles du Seigneur même qu'on va considérer. On va prendre Jean chapitre 7, hein, les propos merveilleuses du Seigneur, bien connues aussi. Quand on vous dit chapitre 7, je pense que vous devinez avec ce thème de quoi je vais parler, les versets 37, et je lirai jusqu'à 43. Jean chapitre 7, je vais lire des versets 37 à 43. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et on a un commentaire, une explication ici, pour nous expliquer, si on avait lu que ça, sans commentaire, je me dis combien on aurait compris, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça. Mais nous avons vraiment l'explication dans les textes, parce qu'il est dit, il dit cela, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et là encore, on comprend une chose, que l'importance, quand le Seigneur invite comme ça à lui, vous savez, il va le faire à certains instants, inviter dans la foule, inviter les gens à lui. J'ai relevé un autre passage où, c'est pas dans les mêmes termes, mais on a la même réalité derrière qui est sous-entendue, hein. C'est Matthieu chapitre 11, c'est le verset 28 qui est très connu. Matthieu 11, 28, venez à moi. Voilà. Et on va le chercher dans le texte. Matthieu chapitre 11, verset 28. J'aurais pu presque juste le citer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et un beau passage dans l'épître aux Hébreux qui nous explique ce repos de Dieu. Voilà, pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Et on voit encore qu'il est question de cette réalité de vie de ceux qui allaient recevoir l'esprit qui allait lui appartenir et recevoir l'esprit, c'est de ça qu'il est en train de parler quand il invite de venir à lui. Venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est pas juste pour faire de nous des paresseux hein, qui n'ont plus rien à faire, mais c'est pour nous donner le repos de l'âme. Et une conscience soulagée, délivrée, qui fait qu'on est en paix, quoi qu'il arrive, même au milieu de l'adversité. Vous vous rappelez hein, le titre d'un livre qui a été aussi un film, Dieu en enfer. C'est quelqu'un qui vivait les pires des choses, mais en Christ, avec ce repos qu'on a reçu en Christ, elle avait appris à réaliser que Dieu était là, même dans ces pires des choses aussi horribles qui pouvaient arriver. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'un virus, hein, avec toutes ces conséquences hein, qui peut y avoir. Faisons ce qu'il faut faire, bien sûr, soyons sages, mais faisons, remercions le Seigneur pour ce repos dans lequel on est rentré par la réalité de cette nouvelle vie dont il parle là encore. Et c'est ça mon propos pour ce matin, la merveilleuse vie de l'Esprit. On peut aussi considérer Jean, chapitre 14, dans les paroles du Seigneur, hein, bien connu aussi, c'est les versets 15 à 19 que je vais lire. Alors Jean, chapitre 7, j'aurais dû continuer ma lecture je vais le faire d'ailleurs, je vais revenir en arrière sur Jean chapitre 7, voilà, pour aller jusqu'au chapitre 43, comme je l'avais dit, hein. Voilà, et après on va aller dans Jean 14. On revient en Jean chapitre 7, et on lit à partir de ce verset 40, hein, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Et pourquoi j'ai voulu aller jusqu'au verset 43? Tout cela à cause de ces paroles qu'il venait de dire. Quand il a parlé ainsi, en invitant de venir à lui et en faisant cette promesse, que certains devaient comprendre en partie, qu'il parlait de quelque chose d'unique, eh bien on a pu faire le rapprochement avec justement celui qui seul est le Christ qui pouvait nous faire de telles promesses ou parler de la sorte. Vous vous rappelez un moment où quelqu'un avait dit « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Vous voyez, on reconnaissait qu'il y avait là en lui une réalité qui dépassait. Et on va en Jean 14, versets 15 à 19. Peut-être que vous y étiez déjà. Voilà. Jean 14, versets 15 à 19. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et voilà une autre instance où le Seigneur va parler de cette vie, de cette réalité de la vie de l'esprit, et pour voir comment dans ses propos ça préoccupe toujours son esprit. C'est ça qu'il est venu faire, nous verrons tout à l'heure, c'est cette réalité qui le préoccupe, qui le concerne. Et il y travaille avec soin. Le texte que nous allons regarder là nous montre un peu cela, en Actes chapitre 1. Voilà. Actes chapitre 1. Et on va lire versets 4 à 8. Actes 1, chapitre. Versets 4 à 8. Donc tout cela, nous sommes en train de regarder pour voir l'importance et la place de cette réalité aux yeux du Seigneur lui-même, la merveilleuse vie de l'Esprit. Comme il se trouvait avec eux, Actes chapitre 1, versets 4 à 8, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendez ce que le Père... Attendez ce que le Père avait promis, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre gloire, de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, et il les ramène au sujet qui est important. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien connu ce passage aussi, n'est-ce pas? Mais c'est très intéressant ce passage-là parce qu'on voit le soin avec le traitement soigné que le Seigneur accorde à cette réalité quand ça devait, qui était attendu encore, qui devait venir. Et il insiste, il précise très bien à ses disciples qu'il ne fallait pas prétendre entamer quoi que ce soit avant que cela s'accomplisse, ce qu'il avait promis. Parce qu'il est celui, comme on a vu, avec tous ces versets qu'on a vus, qui baptisait du Saint-Esprit. Mais ça, c'était quelque chose en attente. Et même quand le Seigneur, justement, a accompli le salut, on comprend que, justement, il doit être glorifié, et qu'il avait expliqué à ses disciples, il faut que je m'en aille pour que le paraclet, le consolateur vienne. Donc, cette réalité n'est pas encore là, véritablement, et il prend soin de demander à ses disciples de ne rien entreprendre et d'attendre, justement, à cause de l'importance de ça. Imaginez que, justement, les disciples prétendent justement commencer la vie de l'Église sans cette réalité-là. On comprend bien, on n'aura pas la même réalité sur terre de l'Église aujourd'hui s'ils avaient commencé comme ça. Il fallait qu'ils attendent cette puissance pour que ça soit la continuation ou la continuité de ce que le Seigneur Jésus avait commencé d'accomplir, pour que ça soit la suite de l'œuvre du Seigneur Jésus qui soit accomplie par son esprit et par lui-même. Heureusement, ils vont observer ça. Ils vont respecter ça. Et je voulais aussi montrer l'insistance quand ils essaient, après que le Seigneur leur pointe le plus important, et ça semble ne pas être encore leur point de vue. Parce qu'on a l'impression que le Seigneur vient de leur faire une annonce énorme, mais eux sont prêts déjà à passer à autre chose, ce qui les préoccupe. Vous savez, ils avaient vraiment cette question-là, hein, qui les préoccupait. Ils étaient venus vers le Seigneur pour un peu comprendre comment Dieu allait faire les choses à la fin des temps, comment ça allait se passer. Et là, ils sont encore là avec cette question. Ils lui disent, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et le Seigneur le ramène à une chose. Attendez le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas à vous de savoir ça, ce n'est pas ça l'important. Mais toi, ce qui vous concerne, ce qui vous préoccupe maintenant, c'est simplement d'attendre afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et rappelons-nous la manière dont il avait parlé avec ses annonces. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ou bien, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. J'espère qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons commencé à goûter à cette réalité-là. Vous savez, beaucoup de témoignages que nous pouvons entendre et donner de l'Église à travers tout ce que l'Église peut passer, peut endurer. Et pas seulement les bonnes choses. Je sais que nous aimons les bonnes choses. Nous aimons quand ce sont des miracles qui se produisent. Qui c'est qui n'aime pas raconter une merveille de Dieu? Par exemple, j'étais malade, et puis j'ai été guéri, j'avais perdu telle chose, et puis c'était introuvable, c'était tombé dans l'herbe. Et nous avons raison de le faire. Nous aimons ça, mais ce que nous oublions, c'est qu'on peut glorifier Dieu de la même manière en racontant une histoire où dure et pénible les larmes aux yeux. Et on leur raconte, pas pour gémir ou pleurer, parce que je ne peux pas m'empêcher de pleurer, mais je leur raconte pour pouvoir donner gloire à Dieu et montrer une chose, c'est que c'est à Dieu que je m'attends dans cette situation pénible et difficile. C'est un peu mon propos pour ce matin, pour l'encouragement de l'Église. C'est une des facettes de la réalité de cette nouvelle vie de l'Esprit. Beaucoup de personnes insistent sur les prodiges. Ils veulent une grande vie, ils veulent que tout marche pour eux, que tout réussisse pour eux, et ils veulent montrer la gloire de Dieu à travers ça. Mais Dieu dit, c'est si je le veux, tu le feras, comme ça. Et il avait dit à Pierre, que t'importe si lui vit éternellement. Si je veux, il va vivre éternellement. Toi, suis-moi. Donc c'est le programme de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Dieu se glorifie de manière différente dans nos vies. À un tel, il peut accorder même la richesse, les grandes choses énormes. Et à un autre, un peu, comme Job, on pourrait dire, mais pour un temps, la pauvreté. Et il faut qu'on sache se préoccuper avec ce qui est l'essentiel, la réalité de Christ en nous. Et nous, aujourd'hui, combien cela nous parle et nous préoccupe, la question de la vie de l'esprit. Vous savez, je commence à me considérer comme plus jeune. J'ai mis un peu de temps pour pouvoir commencer à sentir les faiblesses de mon corps, mais c'est venu, c'est arrivé. J'ai essayé de résister au maximum, Mais tous ces derniers temps, j'ai même eu les occasions, je n'ai pas pu être au culte le dimanche parce que j'étais dans un état de maladie ou de faiblesse. Ça fait tellement frustrant pour celui qui se sentait, il n'y a pas si longtemps que ça, immortel. Donc là, les limites sont là. Les faiblesses sont là. Mais une chose qui est ma préoccupation de plus en plus, et je peux vous dire que, et c'est ça que je veux partager avec vous ce matin, je voudrais que ça soit aussi le plus tôt possible. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, ils sont partis déjà. Je me suis dit, si ces enfants restent là, il faut que je me préoccupe de savoir leur parler aussi. Je n'avais pas imaginé qu'il y aurait autant, mais ils sont partis à leur école. Voilà. Mais je vais quand même essayer de me faire comprendre de ceux qui sont moins jeunes. Et je voudrais que de plus en plus, ça puisse être notre préoccupation. Parce que ça se voit trop souvent que dans certains endroits où on est là normalement pour servir Christ, pour l'avancement de l'œuvre de Christ, qu'on passe énormément de temps à nettoyer l'extérieur, ce que j'appelle l'extérieur de la coupe, et on n'est pas assez préoccupé avec l'intérieur de la coupe. C'est-à-dire tout un tas d'énergie qu'on dépense, tout un tas d'efforts qu'on fait, par exemple pour avoir un beau bâtiment, par exemple pour que le culte puisse être bien organisé, pour qu'on ait tous les instruments qui puissent nous aider avec la louange, et puis tel autre instrument, tel truc sophistiqué. Et parfois, on arrive à avoir tout ça parce qu'on est préoccupé, parce qu'on se concentre beaucoup sur ça, on fait beaucoup d'efforts pour ça, et on y arrive. Et puis finalement, l'intérieur est négligé. Ça veut dire que ce qui est la vie dont le Seigneur est en train de parler quand il a fait cette annonce, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, cette vie-là, on ne la voit pas en évidence. Et l'apôtre Paul sait ce qu'il va faire avec les Galates. Ce sera, comme je vous ai dit tout à l'heure, son argument final. Il va les inviter sur ce terrain-là pour qu'ils sentent la nécessité et l'obligation d'arrêter de vouloir vivre par la chair ou selon la loi des œuvres, mais de vivre par l'esprit. Et c'est pour ça qu'il leur prête ce chemin-là. Quelle est votre réalité en termes de la vie de l'esprit? Et ce que nous avons tendance à faire, nous, hommes pécheurs, par rapport à ces réalités-là, c'est un peu de les camoufler. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pour ça que le Seigneur, un des termes qu'il a préféré pour désigner les conducteurs du peuple d'Israël en son temps, hein, les scribes, les pharisiens, les sadducéens et tout cela, c'était hypocrite. Hypocrite. Parce que c'était des gens qui soignaient l'extérieur, comme il leur disait. Hein. Ils soignaient l'extérieur pour avoir une belle apparence, pour impressionner les gens. Mais si on allait chercher la vérité, si on pouvait mettre une petite caméra pour les suivre toutes les heures de leur journée, et on allait voir qu'ils n'étaient pas ces hommes qu'ils prétendaient être. Et l'homme pécheur, il a un naturel à essayer de faire ça, depuis le plus jeune âge. Mais moi, ce que j'aime, et c'est ça que j'avais pensé quand j'ai pensé que ces enfants vont être là, c'est de pouvoir dire que c'est quelque chose qui est possible pour un jeune homme, pour un jeune enfant, cette réalité de la vie de l'esprit. Ce n'est pas juste une affaire d'adulte. Vous savez, parfois, on a tendance à laisser les enfants, on dit, ben, ils sont faibles, bon, les enfants, quand ils sont plus grands, ils vont comprendre ça, ils vont... Non, 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 un enfant, et je suis content de ce que dans le temps, nous avons eu ce qu'on a appelé un club d'enfants, ça s'appelait le club Arwana, à l'église du Kounoulama. C'était une grosse activité de l'église, c'était le mercredi après-midi que ça se passait. Et là, les enfants, on leur montrait la parole de Dieu, on leur faisait apprendre, mémoriser les versets, et on leur expliquait les passages bibliques pour les exercer, les entraîner. Parfois, ils étaient peut-être même pas encore au Seigneur, hein. On savait qu'il fallait prier pour qu'effectivement ils puissent trouver Christ, mais on leur montrait la foi de Dieu. Et on insistait avec eux pour leur dire que voilà ce que Dieu met devant toi, la vie. Alors c'était bien sûr des choses parfois, bien sûr, pour un enfant difficile à faire. Quel enfant n'a pas cédé à la tentation de prendre de la confiture qui était interdite, et puis après s'arranger pour que ça ne se voit pas trop, ou bien trouver toutes sortes d'astuces alors que... C'est forcément visible, hein. C'est compliqué à faire pour un enfant. Mais ce qui est merveilleux, c'est de voir un enfant dès son jeune âge, qui est déjà soucieux de plaire à Dieu, ou de marcher selon Dieu, de vivre selon Dieu, comme c'est beau. Voilà. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut impulser cela dans le cœur, même d'un petit enfant. Vous savez, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé deux ou trois fois dans ma vie, qui m'a impressionné. C'était à chaque fois des jeunes filles. Alors, les jeunes hommes, hein, on se demande combien de temps qu'il nous faut pour comprendre. Mais c'était des jeunes filles, et elles m'expliquaient que très tôt, et pour une, c'était à l'âge de 5 ans, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est que c'était des enfants, en fait, qui n'avaient pas une influence de quelqu'un dans la famille. C'est-à-dire que c'était dans des familles de non-croyants. Parfois, c'était des gens religieux, mais qui n'étaient pas pratiquants même. Et cette jeune fille que j'ai en tête en ce moment, elle m'expliquait ça. Eh bien, elle, tout petite, elle a commencé à aimer le Seigneur. toute petite, au point que, moi j'écoutais, je me suis dit oui, peut-être que. Mais quand elle m'a expliqué une chose, elle m'a dit que quand, je ne sais pas à quel âge, à l'âge de 8 ans, tout comme ça, quand on lui a demandé quel cadeau elle voulait, elle a demandé une Bible. Ben, j'étais impressionné. Et cet enfant, quand en fait, vous savez, cet enfant appartenait à une certaine religion, mais d'après ce que je comprenais, elle ne connaissait pas Christ encore comme elle devait le connaître. Mais elle avait un cœur pour Dieu. J'ai rencontré une deuxième personne qui m'a expliqué qu'il a vécu dans un milieu horrible. Et elle me raconte qu'à l'âge de 8 ans, à un moment, elle est sortie dehors. Elle se souvient très bien de ça. Pour elle, c'est sa première rencontre avec Dieu. Et elle est sortie dehors sous la pluie. Elle souffrait beaucoup avec ce qu'elle était en train de vivre. Et en fait, elle me dit, elle parlait avec Dieu qu'elle ne connaissait pas. Elle était consciente, elle sait que Dieu existe, elle croit que Dieu existe, mais elle est consciente qu'elle ne connaît pas Dieu. Mais elle a parlé avec Dieu pour lui parler de ses souffrances, de comment elle souffrait et de demander de l'aide de Dieu. Et c'est une personne encore qui continue de souffrir hein, dans des choses horribles, mais qui est aussi encore attachée au Seigneur, qui est à l'âge d'adulte aujourd'hui, voilà, bien avancée, qui est encore attachée à son Seigneur. Et qui, avec tout ce qu'elle vit encore, il faut l'entendre comment elle parle de la bonté de Dieu et puis de l'amour de Dieu. Ça, c'est très encourageant. Et tout ça, je cite ça pour mentionner cette réalité de la vie de l'Esprit. C'est-à-dire des choses extraordinaires qui nous dépassent, mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre pour l'impulser, pour le faire, eh bien cela se passe, aussi surprenant que cela puisse être. Je sais que lorsque j'étais jeune croyant, j'ai eu beaucoup de mal pour commencer à croire et accepter le salut ou la conversion des enfants vers l'âge de 5 ans. Pour moi, ce n'était pas possible. Pour moi, c'est une affaire trop sérieuse, l'histoire du salut, pour qu'un enfant de 5 ans puisse prétendre comprendre ça. Et puis, mais j'oubliais cet aspect-là à ce moment-là, où je ne le connaissais pas assez. Cet aspect que l'Esprit de Dieu peut parler au cœur d'un tout petit enfant et peut faire comprendre l'essentiel à un tout petit enfant et déverser dans le cœur d'un tout petit enfant l'amour et la crainte de Dieu, au point que cet enfant va avoir un motif de conscience et va vouloir se conduire droitement, faire les choses avec les limites que ça peut avoir, mais tout ça impulsé et par la vie de l'Esprit. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Et ça, je veux vraiment souligner ça. Il y a une question, justement, que nous trouvons en Actes des Apôtres. On va regarder le chapitre 19 et le verset 2, qui nous montre que c'est de cela qu'il est question quand on vient au Seigneur. Il est question de cette réalité, de cette réalité de l'Esprit. Et regardez, c'est un passage un petit peu particulier, hein, qui a fait polémique d'ailleurs, hein. Mais en Actes chapitre 19, je vais lire verset 2, mais je lis le contexte pour nous. Hein. Allons au chapitre 19 d'Actes des Apôtres. Hein. Je lis à partir du verset 1, hein. Mais la question est au verset 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Et encore, vous voyez, encore un texte où nous trouvons ces deux baptêmes de mentionnés. Le baptême d'eau, le baptême que Jean administrait, le baptême de repentance, et puis la réalité, le baptême du Saint-Esprit. Alors Paul leur explique ça. Voilà, donc je relis, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors, je sais, on a fait dire tellement de choses à ce passage parce qu'on a voulu tellement les décortiquer, tellement trouver ce qu'on voulait trouver. Mais il faut vraiment comprendre ce qui est important ici et là où l'accent est mis. Pour comprendre ça, il faut lire le passage qui est juste avant et on va le faire. Un juif, à partir du verset 24 du chapitre 18. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Ça, c'est très important pour comprendre la suite. Et la petite chose qu'il fallait corriger. Je relis ça parce que pour comprendre ces deux textes dans les Écritures, c'est très important de les rapprocher et de lire ce qui est important comme information. Donc, je relis avec vous quand il est dit « Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. » C'est tellement important pour pouvoir comprendre ce que ces Éphésiens qui avaient été au contact d'Apollos avaient compris. Donc, il était éloquent, il parlait bien, il expliquait bien, et il le faisait avec exactitude. Mais, il y avait comme une faiblesse, comme quelque chose qui manquait. Ça dit, bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Voilà, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. Là, ils ont complété là où ils ont vu qu'il y a une petite faiblesse. Et c'était lié à la question qu'ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Et c'est comme s'ils perdaient de vue ce que Jean avait toujours fait avec ses propres disciples. Hein. Vous savez, à un moment, les disciples de Jean sont venus voir Jean en disant, écoute, celui que tu as baptisé là, et puis qui tu as rendu témoignage, voilà. Tous vont à lui, et ils étaient jaloux que le Seigneur commençait à faire plus de disciples que Jean. Et Jean leur a répondu d'une manière formidable. Hein. Il dit, mais écoutez, vous n'avez pas compris ce que je vous avais dit. Vous êtes témoins que je vous ai dit que c'est pas moi le Christ, c'est pas moi que vous devez suivre. C'était un peu le problème des Galates. Si vous voulez comprendre le problème que les Galates avaient, c'était comme si, après avoir entendu Jésus, ils veulent continuer avec Jean. Et ils n'ont pas compris que Jean était en train de le pointer Christ en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean avait besoin d'attester, de préciser, à cause de la grandeur de son ministère, à cause de la puissance de Dieu qui l'accompagnait aussi, Jean avait besoin de leur préciser, je ne suis pas le Christ, c'est pas moi qu'il faut suivre. Et Jean les a même réprimandés pour lui dire, est-ce que vous avez oublié ce que je vous dis? Et Jean a même dit cette parole, il faut qu'ils croissent et que je diminue pour leur dire que c'est normal ce qui est en train de se passer là, que tous aillent à lui. Et j'en serai heureux. Donc, c'est ça qu'ils vont faire pour leur montrer ce qui concerne justement le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'il y a une manifestation qui est donnée là aussi, que l'Esprit va se manifester comme pour attester que voilà, maintenant... Maintenant qu'ils ont compris que cette rectification avait faite, et je pense qu'il ne faut pas qu'on commette l'erreur même de considérer ces personnes-là autres que disciples. Parce qu'ils sont dit comme des disciples, même s'il y avait quelque chose à complémenter. Vous savez, quand nous recevons Christ, et je ferme la parenthèse, il ne faut pas chasser trop de lapins, mais quand nous recevons Christ, rappelons-nous d'une chose que nous n'avons pas tout compris le premier jour. Et il y a bien des grandes doctrines, des grandes vérités bibliques fondamentales qu'on a peut-être entendues, mais on n'a pas tout à fait compris que ça va venir. Mais ce qui importe, c'est que nos cœurs sont à Christ maintenant et que son œuvre va aller se faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne patience les uns avec les autres. Et je voulais nous montrer ça. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Et c'est le problème à bien des endroits, comme je vous ai dit, des gens qui essaient d'être corrects et qui, selon leur propre point de vue, qui arrivent à être corrects, qui arrivent à faire ce qu'ils voudraient faire, arrivent à mener la vie qu'ils voudraient mener, et qu'ils voulaient presque faire la preuve, voilà, que je suis avec Dieu. Vous savez qu'il y a dans des religions où on ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ comme fils de Dieu, vous allez avoir, moi je suis assez souvent en contact avec de telles personnes, et je me dis, c'est vrai, même parfois je me dis, je trouve quand même bien qu'il puisse être gentil comme ça. C'est des gens qui aiment partager, c'est des gens qui ont... Ils ont beaucoup de qualités, ces personnes-là, sous la base d'une religion qu'ils tiennent à pratiquer correctement. Je me rappelle même au travail, à un moment, j'étais en contact avec une de ces personnes à un lieu de travail où j'étais, et cette personne, c'était dans une certaine période où ils ont certaines abstinences qu'ils font par rapport à leur religion, mais cette personne, il se mettait au milieu de tout le monde pendant que tout le monde mangeait, et puis moi, ça me gênait, moi, j'aurais préféré qu'il aille... Parce que lui, il ne mange pas, j'aurais préféré qu'il aille se mettre. Moi, je devais manger en pensant que lui, il souffre, puis qu'il ne mange pas. Je lui expliquais ça. Mais non, il me disait, non, il ne faut pas t'occuper de moi, je suis bien, je ne souffre pas. Et il me disait un moment, il m'expliquait que voilà, nous, c'est ça une religion. Il me montrait que notre religion, tu vois, c'est ça une religion. Et il me parlait de tous ceux, il faut vraiment qu'on puisse prendre cette réprimande-là parfois pour nous, hein. Il me parlait de tous ceux, justement, qui disaient qu'ils servent Dieu et tout ça, mais que voilà, que... pas de sacrifice, quoi, pas d'effort. Vous savez, il y a quelque chose à entendre de cette sorte de réprimande, même si il faut pas juste répondre que c'est pas par les œuvres, tu vois, que c'est par la foi. Il faut que notre foi aussi se voit dans les œuvres que nous allons aussi pouvoir pratiquer, dans les efforts que nous allons pouvoir faire. Et c'est la vie, la réalité de la vie de l'esprit. L'apôtre Paul va bien sûr en parler à certains endroits. Et j'ai envie de dire que c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons marcher selon l'esprit. Et là, nous allons retourner en Galate pour terminer. Voilà. C'est là que nous allons retourner en Galate. Mais le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Et les textes que je vous ai montrés nous montrent comment le Seigneur, la place et l'importance qu'il accordait à cette réalité de la vie de l'esprit. Il ne fallait pas que les disciples prétendent de commencer quelque œuvre pour lui tant qu'il n'aurait pas été investi du Saint-Esprit, tant que le Saint-Esprit n'allait pas venir pour pouvoir, comme il avait annoncé à l'avance, faire sa demeure en eux et qu'ils reçoivent cette puissance-là. Bien souvent, nous mettons l'accent sur ce que nous ne pouvons pas faire, ou bien sous nos échecs, ou sous le fait qu'on tombe, et on dit... On est humain, Dieu va nous comprendre. Et parfois, c'est vrai qu'il faut savoir quoi, prendre patience avec les faiblesses des autres. Il y a un sens où effectivement, il faut attendre. Mais il y a un sens aussi où il faut rappeler à l'autre que toi, tu es faible. Mais l'esprit de Christ en toi est fort. Et que ta vie, la réalité de ta vie, c'est la réalité de la vie de l'esprit. Moi, c'est ce qui m'encourage aujourd'hui. Moi qui suis encore un homme... Qui vous exhorte ce matin, mais qui suis un homme qui a des choses à corriger dans sa vie, qui a des efforts encore à faire. Je me rappelle toujours de la victoire du Seigneur, acquise à la croix, mais je me rappelle aussi des victoires qu'il m'a déjà accordées. Je me rappelle de ces choses qui m'embêtaient quand j'étais jeune chrétien, et qui ne m'embêtent plus. Et j'espère qu'ils ne reviendront plus m'embêter, même si le Seigneur me dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut toujours rester vigilant. Donc c'est sur ces deux bases-là, j'envisage la suite de ma marche. Mais ma préoccupation, ces derniers temps, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de partager ça avec vous ce matin, ma préoccupation de plus en plus, c'est en réalisant que effectivement, parfois j'ai envie de dire c'est la dernière ligne droite. Quand on entend, quand on assiste à tout ce qui est en train de se passer et à la vitesse avec laquelle ça va, vous savez, plutôt que d'avoir peur ou de s'inquiéter, il faut au contraire se dire qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Voilà. Déjà, je ne sais pas quand c'est que le Seigneur me reprendra, donc... Dans ce sens-là, forcément, il me reste plus beaucoup de temps. En tout cas, il ne me reste pas 50 ans. Voilà, vous allez me dire, et peut-être qu'il ne me reste pas 40 ans, et peut-être qu'il ne me reste pas 30 ans, peut-être qu'il ne me reste pas 10 ans, et peut-être qu'il ne me reste pas plus qu'un jour. Je vais aller juste... Et sur cette base-là, je me dis, ma préoccupation de plus en plus, et là, je vous invite en Apocalypse 22, ma préoccupation, c'est cette exhortation que nous retrouvons en Apocalypse 22, dans le contexte justement du temps de la fin. Peut-être que vous connaissez ce passage des Écritures. Je lis à partir de verset 9. Jean voulait s'apprêter à se prosterner pour adorer celui qui annonçait ces choses, mais il me dit, garde-toi de le faire. Verset 9, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et vous savez, frères et sœurs, vous qui êtes au Seigneur, c'est son programme pour nous. Et il nous reste peu de temps. Et ma préoccupation, ce n'est pas justement que telle chose soit bien arrangée, que telle chose soit bien faite, que de soigner l'extérieur. Mais que de plus en plus, on puisse être préoccupé avec la réalité de vie qui est la nôtre. Comment nous sommes appelés à vivre la vie, la vraie vie. Cette vie dont le Seigneur a parlé. Justement, quand il a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. » Et en retournant en Galate, c'est cette vie à laquelle l'apôtre Paul va ramener justement ceux qui voulaient, après avoir connu Christ, continuer selon le principe de la loi et selon le principe des œuvres. Il va leur faire la démonstration, c'est pour ça que j'ai parlé des hypocrites que le Seigneur a tellement confrontés en Israël. Quand on n'a pas l'esprit, on ne peut pas vivre
la réalité de Dieu. On ne peut pas avoir cette vie dont il est question. Beaucoup de gens voudraient. Ils sont obligés de tricher. Parce que quand vous n'avez pas la réalité de vous, de cette vie-là en vous, quand vous ne pouvez même pas, et vous savez, c'est le sort de l'homme sans Christ, voilà, vous ne pouvez pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On camoufle. Et on essaie de mettre une grande lumière, une grande loupe sur les petites bonnes œuvres qu'on va faire là, et on camoufle, on cache ce grand nombre de choses mauvaises là, on les tient bien, bien cachées. Parfois Dieu lui-même, quand il le veut, il fait exprès d'amener en lumière certaines choses, c'est comme ça qu'on entend les scandales, c'est comme ça qu'on dit « Ah, cet homme-là qui était si gentil, comment il a pu faire ça ?» Vous voyez, quand on découvre la réalité, quand les choses cachées sont mises en lumière, on est obligé de tricher. La bonne nouvelle et la grande joie pour ceux qui sont en Christ, c'est que c'est l'inverse. Vous pouvez vivre et amener tout à la lumière. Et lorsqu'il y a votre faiblesse, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. L'apôtre Paul, il va savoir expliquer ça aussi. Lorsqu'il y a justement votre faiblesse, c'est là que vous vous rappelez que ce n'est pas sous la base de votre réussite que Dieu vous sauve ou que Dieu vous reçoit. C'est selon sa bonne volonté, dès avant la fondation du monde, que Dieu a prévu que nous soyons saints. Et que Dieu a prévu de nous faire apparaître aussi saints et irréprochables devant lui. Voilà ce qui encourage. Ce qui m'encourage aujourd'hui, c'est de savoir, au milieu de tous mes efforts, au milieu de toutes mes luttes, après tant d'années, de décennies de vie chrétienne, les choses que je vois encore qui méritent d'être redressées, je n'ai pas besoin de perdre courage parce que j'ai une garantie dans le Seigneur Jésus si je suis honnêtement et sérieusement en travail et avec un motif de conscience envers Dieu. Il ne s'agit pas de tricher, de jouer ou de vouloir cacher. Vous savez combien c'est difficile pour nous? Je ne sais pas quelle la dernière fois c'est arrivé parmi vous. Vous savez combien c'est difficile de se tenir au milieu d'une assemblée et de confesser un péché et d'avouer une faute? Oh, c'est pas facile. Ça m'est arrivé une fois d'avoir le faire en tant que pasteur. Vous savez, c'est encore plus dur en tant que pasteur, celui qui doit être le modèle, de devoir apparaître et puis pour être net avec le Seigneur, pour être dans la lumière, dit, je demande pardon, je reconnais que j'ai fait telle chose, ou que j'ai été comme ça, ou que j'ai négligé telle chose, et de demander. C'est très dur. Mais quand vous le faites ça, vous êtes libéré. Vous êtes libéré, c'est là qu'on voit qu'une chose qu'on oublie souvent, c'est pour ça qu'on est tellement stupide de cacher nos fautes. David a vécu ça lui-même, vous vous rappelez? Et c'était assez grave ce qu'il cachait. Et Dieu, dans son amour, a envoyé Nathan. Et Nathan était là pour sortir David de mauvaises passes dans lesquelles il était. Parce qu'il dit lui-même, tant que je me suis tué, il était mal, mes os se consumaient. Il faut s'imaginer la relation avec Dieu qui est rompue. Un homme de Dieu comme David, qui a écrit de si belles choses dans sa relation, dans sa communion avec Dieu, c'était brisé et David était mal. Mais il n'avait pas la force de venir et d'avouer ça à lui en tant que roi. Vous voyez, pour qui il va apparaître maintenant quand on va savoir ça? Et vous savez, de même, parfois, on préfère cacher des péchés alors que Dieu nous dit une chose. Non seulement, et je vous permets de parler, hein, juste à ce moment-là, parce que dans le culte, normalement, on n'invite pas les gens de parler. Mais là, vous pouvez parler. Quelles sont les deux choses que Dieu promet qu'il va faire lorsque nous avons confessé nos péchés, lorsque nous allons venir à lui et qu'il va confesser nos péchés? Il nous promet deux choses. Est-ce que vous les connaissez? Voilà, oui, on peut dire les pardonner, voilà. Je vais faire ça. Là, ça, c'est la première chose. Il va nous les pardonner. Oui, mais là, il ne s'agit pas de question du salut. C'est-à-dire, on est déjà sauvé et on a commis une faute et on vient le confesser à Dieu.
Purifié de toute iniquité.
Oh là là, c'est si important. Et c'est pour ça que je vous ai fait participer exprès. Parce que je me dis, est-ce qu'on a remarqué ou est-ce qu'on réalise ce que Dieu a déjà fait pour nous dans son amour? Dieu promet deux choses. Et il dit, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est écrit, mais Jean dit, il est fidèle et il rajoute, et juste. Et on a envie de se poser la question, pourquoi juste? Parce qu'à la limite, ce n'est pas juste de pardonner le coupable. La justice, c'est qu'il paye. Mais c'est juste de la part de Dieu parce que Christ a payé. À la limite, Dieu serait même injuste s'il ne nous pardonnait pas. Mais il est fidèle et il est juste aussi après que Christ ait offert un si grand prix pour le pardon de nos péchés que Dieu ne nous pardonne pas. Et on a une garantie là que Dieu, si on vient avec notre péché, qu'on l'apporte, il va les pardonner, mais il ne va pas se limiter à les pardonner. Parce que vous pouvez avoir votre péché pardonné, ça veut dire que vous ne paierez pas, vous ne ferez pas la prison, mais vous restez quelqu'un de taché. Vous restez quelqu'un d'impur avec une souillure qui vous a sali. Mais Dieu dit, je vais ôter cette souillure. C'est incroyable parce qu'il peut le faire. Qui est-ce qui peut ôter une tache? Pas couvrir le péché comme on faisait dans l'Ancien Testament, mais faire en sorte que la tâche qui vient de la salissure que tu as reçue en faisant ce péché ne soit plus là. C'est incroyable. Et ce n'est pas une promesse pour ceux qui... que c'était la première fois qu'ils faisaient ça. C'est-à-dire, c'est pas une promesse pour ceux qui n'étaient pas encore chrétiens quand ils ont péché. Et parfois, on oublie que c'est une promesse pour le croyant à qui il peut arriver de pécher. Et parfois, on peut faire comme un pharisien, faire semblant que ça ne m'arrive pas. Hein? Que voilà, j'ai pas eu cette pensée impure. Ou j'ai pas menti. Et on se voile la face, on se ment à soi-même et on refuse de regarder des péchés qui restent et on reste sali, on reste souillé avec toutes sortes d'incapacités et on est en dehors de cette merveilleuse vie de l'esprit. Parce que la Bible nous explique quand c'est ainsi, l'esprit est attristé et tout ce que le Seigneur avait prévu, cette puissance dont il apparaît, cette puissance de vie, et observez bien autour de vous. Vous allez voir ça. Et j'ai envie de dire ça, je vois deux jeunes gens parmi nous, mais j'ai envie de dire ça aux jeunes gens, c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vu des personnes qui étaient âgées, qui étaient malades, mais je n'exagère pas, ce n'est pas des petites maladies, hein. Notamment des gens avec cancer qui étaient en train de se soigner de cancer. Et quand on avait des travaux de l'église, eh bien c'est ces personnes-là qui étaient présentes, qui étaient alors, qui voulaient faire, qui voulaient aider. Et on avait pas mal de jeunes dans l'église, mais ils avaient d'autres choses à faire. Ce n'est pas pour accuser les jeunes, mais je veux dire que ce n'est pas parce que j'ai de la force physique que je vais avoir la force pour agir. Des fois, vous êtes plein de force, de vigueur physique, mais vous êtes sans force. Mais la personne même malade, la personne âgée, je vous dis des personnes de 70 ans, eh bien ces personnes-là, même je les arrêtais, je cherchais à les arrêter, ils me disaient non, nous on ne le fait pas pour toi, on le fait pour le Seigneur. Et j'étais coincé, j'étais obligé de les accepter. Mais moi je ne voulais pas, ça me gênait de voir qu'avec ce qu'ils ont et puis avec l'âge qu'ils ont, que c'est eux qui sont là pour eux. Et moi j'attendais les jeunes. Alors bon, je rassure, les jeunes sont venus aussi parfois, je ne veux pas accabler les jeunes. Mais je dis, ce qui se passe, c'est que si on n'est pas préoccupé ou si on n'a pas reçu cette vie, cette puissance, et c'est pour ça que je rappelle ceci, commencez avec le commencement. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parfois, je voudrais bien faire des choses pour Dieu. Et puis, je commence et puis je tombe. Ou bien je réalise, mais Seigneur, je voudrais bien faire ça, mais c'est trop dur. Je ne vois pas comment je veux. Vous savez, le Saint-Esprit nous donne une zèle. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est lui aussi qui nous remplit de force. L'apôtre Paul avait dit ça, c'est ce à quoi je travaille avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors, que le Seigneur nous donne de réaliser de plus en plus, surtout dans ces temps troublés, ce dont il nous avait parlé, la réalité d'une merveilleuse vie qui est la vie de l'Esprit. Je ne suis pas rentré véritablement dans les détails pour rappeler un petit peu comment justement nous sommes au bénéfice de cette vie de l'Esprit qui va nous impulser une force et aussi une conviction pour pouvoir agir et commencer les choses. Je prends un exemple simple. Je pourrais tout simplement, en face, si je cite un péché, en face de tel péché, simplement être en train de réaliser, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Et combien ça fait mal, hein? Et ne méprisez pas quelqu'un qui a une certaine lutte avec un certain péché dans sa vie. Cela arrive. Parfois, nous n'osons pas le montrer, ça n'est pas manifeste à tout le monde. Mais nous avons tous des luttes dans nos vies. C'est à ça qu'il faut premièrement penser. Mais combien c'est pénible de voir ça? Alors, il y a deux choses. C'est que la personne qui va venir, elle va juste découvrir que « mais j'y arrive pas, je peux pas. » Et juste en rester à cela, sans réaliser une chose, c'est « maintenant, j'ai une nouvelle créature. » Et c'est une des choses que l'apôtre Paul rappelait à toutes les églises. La réalité de Christ en eux, et sur la base de cette réalité-là, de Christ en eux, c'est ça qui va leur permettre d'oser entreprendre et entamer une lutte, une guerre au péché, qui lutte dans leur membre, il disait par ailleurs, dans l'épître aux Romains. Et la chose, c'est de croire que véritablement, il y a une réalité en moi, le Saint-Esprit, qui est avec vous, et qui sera en vous. Se rappeler que je suis né de nouveau, je me suis vraiment donné à Christ, donc j'ai cette puissance, et maintenant, et c'est le Saint-Esprit qui va le faire, il va me faire croire que je peux m'en sortir dans cette lutte et dans ce combat. Et c'est ça que je trouve formidable. Et j'ai vu ça. Et c'est beau à voir. Quelqu'un, il est encore faible. Par exemple, on va prendre un exemple du tabac. J'ai entouré une jeune fille, jeune femme, pour, qui était préparée au baptême. Et elle avait compris que justement, par exemple, le tabac, ça nuisait à sa santé, c'était pas à la gloire du Seigneur, et qu'il voulait s'arrêter. Et en l'occurrence, c'était quelqu'un qui avait touché non seulement au tabac, mais à des drogues fortes aussi. Donc vous voyez la complexité. Et parfois, nous, on voudrait aller vite, on voudrait presque voir le miracle, et que voilà, hein, elle arrête, et puis même pas de séquelles. Ça existe, hein, vous le savez, j'espère. Hein. Des gens qui ont touché à la drogue, ils devraient être démontés en tous les états, et puis non, ils arrêtent du jour au lendemain. Et puis, ils n'ont pas besoin de l'hôpital, ils n'ont pas besoin d'aide, et puis il n'y a pas de rechute, j'en connais. Et c'est formidable. Mais le plus souvent, ce qu'on va voir, c'est quelqu'un qui aura besoin d'apprendre à se dépouiller. Et on va dire en particulier de cette chose-là qui a triomphé d'eux. Et c'est bien de voir cette personne qui y croit. Moi, je me rappelle de cela, cette jeune femme. Ça me faisait presque peur parfois. Je dis, mais elle est trop tranquille. Parce qu'elle est tellement sûre qu'elle va y arriver que ça ne la perturbait pas. Et elle disait, elle regardait la cigarette et elle dit, tu vas me lâcher un jour. Et parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne voulait pas. Et que, mais elle réalisait que j'y arrive pas encore. Mais elle croyait. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est-à-dire, il vous donne cette vision que la victoire de Christ, c'est pour vous, même quand vous n'êtes pas encore tout à fait rentré dans cette victoire complètement. Et j'ai voulu mentionner ça pour nous, parce que c'est souvent ce qui décourage beaucoup. C'est-à-dire, on commence, et quand je vois, oui, cette chose que je voulais abandonner, cette chose que j'avais dit que je ne ferais plus, quand je vois, je l'ai encore fait, alors c'est là que je commence à cacher. Parce que si je dis, j'ai fait ça une fois, ben on va vouloir croire que l'Église va me comprendre et va me pardonner. Mais si je dois en dire encore à l'Église pour la troisième fois, c'est là que certains n'ont plus le courage. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est là que commencent les ténèbres. On commence à cacher, à faire semblant, à disparaître, vous savez. Et au lieu d'être là, et de continuer à y croire. Mais une des œuvres de l'Esprit, c'est de nous faire croire à la victoire de Dieu. Et parfois cette victoire, on va le voir acquise après une lutte de plusieurs mois ou de plusieurs années dans certains cas. Alors ne perdez pas courage. L'apôtre Paul, il savait le dire aussi aux chrétiens et l'auteur de l'épître aux Hébreux aussi. Il disait à ceux qui avaient tendance à lâcher, à abandonner, vous avez encore besoin de persévérance. Et vous avez besoin de l'apprendre à lutter jusqu'au sang afin que ce qui nous caractérise, ce qui caractérise notre vie, c'est cette merveilleuse réalité de l'Esprit qui est à l'œuvre pour faire des choses qui nous dépassent, des choses qui étonnent. Prenons donc courage, les uns vis-à-vis des autres. Nous avons parfois affaire au péché, comme j'ai dit. Mais rappelons-nous une chose, c'est que la vie que nous avons en nous, nous qui luttons contre le péché, c'est la vie de Christ, celui qui avait dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pendant que le monde est en train d'aller, comme nous avons lu en Apocalypse, vers le comble de l'iniquité, pendant qu'il se passe des choses de plus en plus scandaleuse que nous entendons, que par la grâce de Dieu, nous ne soyons pas concernés, et que au contraire, de plus en plus, nous soyons en train de nous sanctifier, c'est-à-dire d'amener à la lumière toute chose, et de connaître la réalité de cette vie de l'Esprit dont le Seigneur Jésus nous a parlé. C'est de ces choses que j'ai voulu m'entretenir avec vous. Que le Seigneur nous aide.